En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, existe-t-il un réel rapport entre les conditions climatiques et le déclenchement de maladies humaines? Comment et pourquoi les épidémies se propagent-elles? Ou encore, quel est le théorème, l'équation mathématique qui permet de calculer le chiffre seuil à partir duquel on peut parler d'épidémie? Et puis, question plus simple, mais réponse moins évidente, comment calcule-t-on l'espérance de vie? Toutes ces réponses à ces questions sont traitées par l'académicien des sciences et épidémiologiste Alain-Jacques Valeron dans une conférence au thème plus général « Environnement et santé, les grands changements du XXe siècle ». C'est à l'occasion de la fête de la science 2006 que notre épidémiologiste reconnu, Alain-Jacques Valeron, a réalisé son intervention à l'Institut de France face à quelques 160 lycéens parisiens. Canal Académie retransmet ce cours passionnant que nous vous invitons à écouter sans plus tarder.
L'environnement, on a une idée assez précise de ce que c'est. En tout cas, on pense volontiers à l'environnement en ce qui concerne la santé, comme par exemple, on pense à la pollution atmosphérique, on pense à des choses de ce genre-là. Mais cette première diapositive, c'est pour vous rappeler que sur la santé, il y a des facteurs qui sont dits individuels et des facteurs qui sont collectifs, dans lesquels il y a a priori l'environnement. Mais ça va être surtout ensuite pour insister sur le fait qu'en fait, il n'y a pas des frontières très nettes entre les facteurs individuels et les facteurs collectif. Alors les facteurs individuels, vous les connaissez, c'est par exemple des facteurs héréditaires. Quand on a un parent diabétique, on a plus de chances, plus de risques d'être diabétique que si on n'en a pas. C'est des facteurs aléatoires. On peut avoir un taux de cholestérol différent, simplement par hasard d'un autre. Ce sont aussi des facteurs de choix de style de vie. Souvent, on range ça dans les facteurs individuels. On a décidé de fumer, on a décidé d'avoir tel régime alimentaire, c'est un choix individuel. C'est ce qu'on appelle les facteurs de style de vie et ils sont vus comme individuels. Et les facteurs collectifs, bien sûr, et les facteurs sociaux, si on est un travailleur de l'industrie de l'amiante, on a eu un gros risque de cancer. Puis les facteurs environnementaux à proprement parler, justement. Et il y a ceux qui sont pas modifiables, par exemple, on reçoit des radiations cosmiques, on peut rien y faire, ou presque rien. Puis ceux qui sont modifiables, il y a de la pollution atmosphérique et peut-être on peut faire une loi pour qu'il y en ait moins. Mais en réalité, ces distinctions sont pas tellement réelles. Les facteurs individuels sont souvent, en réalité, peuvent être souvent vus comme des facteurs sous un contrôle collectif. Par exemple, même ceux qui sont les plus individuels, les maladies héréditaires. Il y a un certain nombre de maladies héréditaires qu'on arrive à éviter maintenant dans la société telle qu'elle nous environne et telle qu'elle est actuellement, parce qu'on sait faire du conseil génétique et parce qu'on sait prévenir ces maladies. Les facteurs liés au fait que par hasard on n'a pas de chance, on a beaucoup de cholestérol, eh bien on peut lutter contre, parce que si on est dans un bon système de santé, on va faire de la prévention. Et puis alors les facteurs de choix de style de vie, et ça je vais vraiment insister là-dessus, en réalité c'est des facteurs environnementaux. Ça veut dire que ces facteurs de choix, on pense être libre de choisir de fumer ou de pas fumer, de manger ou de pas manger, mais en réalité il y a une pression sociale, pression économique, pression culturelle qui fait qu'on va être entraîné dans tel choix de style de vie ou dans tel autre. Et je vais insister là-dessus en donnant quelques exemples. Par exemple, vous voyez que c'est tellement vrai que les facteurs culturels sont importants que si on prend simplement quelque chose d'aussi simple que le tabac, ça c'est le nombre de cigarettes, c'est un critère qu'on prend, on compte combien de cigarettes on fabrique dans l'année et ensuite on rapporte aux gens qui sont susceptibles d'en fumer. Enfin bon, toujours est-il que vous voyez que les femmes ont commencé 50 ans après les hommes à fumer. Elles sont absolument normalement à égalité biologique, etc., pour ce problème. Mais la pression sociale fait que en 1900, une femme fumait pas, qu'en 1950, elle a commencé à fumer, et que maintenant, elle fume à peu près comme les hommes. Alors, est-ce que c'est un facteur de style de vie, tout à fait un choix personnel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout de même contrôlé par la société, enfin, expliqué par la société? Sûrement que oui, parce que quand on fait, par exemple, des lois, eh bien, on voit tout de suite les consommations de tabac, par exemple, baisser. Donc, ce qui est le facteur individuel, il est évidemment très influencé par la société qui nous environne. Et vous voyez, ça, c'est les consommations de tabac chez les hommes et chez les femmes, comment elles ont chuté, surtout chez les hommes, on va revenir là-dessus, parce que chez les femmes, c'est beaucoup moins le cas. L'alcool, c'est pareil, la guerre a fait que brutalement, 1940-45, la France, qui était un des pays les plus imbibés d'Europe, a largement été obligé d'arrêter, déjà, faute de carburant. Et ensuite, il y a eu une baisse continue et qui continue actuellement. Ça aussi, ce sont des facteurs, une fois de plus, je choisis de boire, je ne choisis pas de boire, non, c'est pas vraiment ça, j'ai une société qui est autour de moi, qui m'environne et qui va faire que je vais ou non modifier mes comportements. Alors, du coup, ce que je viens de dire, c'est que l'environnement, c'est tout, même les facteurs individuels. Alors, il va falloir faire un choix. Moi, j'ai choisi de vous parler de 4 sujets. D'abord, le premier, c'est tout de même de vous rappeler les chiffres qu'on a sur l'espérance de vie, afin de vous, en gros, l'idée va être de vous montrer à quel point l'espérance de vie continue à augmenter. Et c'est assez important parce qu'il y a tout de même une assez grosse inquiétude que l'environnement actuel, qui a beaucoup changé depuis le début du siècle, l'inquiétude c'est que ces changements d'environnement s'accompagnent d'effets très nocifs sur la santé. Et disons que ce qui va être dit dans ce premier point, c'est que c'est pas apparent, en tout cas quand on regarde les chiffres. Ensuite, on va parler du cancer, parce que tout de même, c'est quelque chose, je crois, dont tout le monde parle dans les journaux, le problème environnement et cancer. On va voir quels sont les grands facteurs de risque du cancer, ceux sur lesquels on peut jouer. Un petit mot sur climat et santé, parce que le réchauffement global nous intéresse, et puis sur la pandémie grippale, parce que c'est un problème d'actualité aussi. Ces 4 choix, il pourrait y en avoir 500 à peu près en médecine, vous savez bien, mais donc il faut faire un peu des choix. Donc, d'abord, je vous rappelle ce que c'est qu'une espérance de vie. Ça, on va y passer une seconde, parce qu'on dit c'est la vie moyenne. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie de quelqu'un en 2005? Eh bien, c'est la durée de vie moyenne que vivra, j'aurais dû mettre que vivrait un enfant qui est né en 2005, si à chaque âge, son risque de mort est celui qu'on observe actuellement pour cet âge. Par exemple, le mieux c'est de prendre un exemple, à 70 ans, cet enfant qui est né, ce sera en 2075, son risque de mourir dans l'année entre 70 et 71 ans, on va imaginer que c'est le risque des personnes actuelles de 70 ans. Vous voyez que c'est une espèce de projection qu'on fait vers l'avenir de la photo actuelle qu'on a à 70 ans. Et c'est une projection extrêmement bizarre, puisque la personne qui est née en 2005, on dit en 2075, elle aura le risque de mortalité des personnes de 70 ans maintenant, mais les personnes de 70 ans maintenant, elles sont nées en 1935. Donc c'est une construction mathématique vraiment, l'espérance de vie dont on entend tout le temps parler, c'est une construction mathématique assez subtile, et en fait c'est un résumé de toutes les tables, de tous les risques de mortalité qu'on observe cette année. Ça veut dire ça, que quand on dit que l'espérance de vie en 2005, on va aller voir tout à l'heure, c'est 78 ans, ce n'est probablement pas la vie moyenne que vivront ces enfants. Ça, on le saura dans un siècle. Par exemple, en 1900, on va revoir ça, mais l'espérance de vie des hommes, c'était dans les 40 ans, quand on faisait ces calculs. Mais les gens qui sont nés en 1900, ils ont vécu en moyenne, heureusement, plus que 40 ans, parce que il n'était pas prévu au moment où on faisait ces calculs en 1900, qu'on découvrait les antibiotiques, etc., etc. Et donc leur vie moyenne a été plus grande, la vie moyenne de la génération 1900 a été plus grande que l'espérance de vie en 1900. Bon, c'est des réserves qu'il fallait donner tout de même. Alors, ces réserves étant données, voilà comment l'espérance de vie a évolué de 1750, 1740 à 2004. Et vous voyez que, bien sûr, il y a les chocs des guerres, mais des guerres napoléoniennes, grand choc de la guerre de 14-18, mais vous voyez cette courbe croissante. Alors ça, c'est jusqu'en 2000. Qu'est-ce qu'il en est? Deuxième point, ça c'est la vision historique, mais qu'est-ce qui est de la vision géographique? Eh bien, la vision géographique, c'est que l'espérance de vie est extraordinairement liée au développement. Vous voyez, ce qui est bien, c'est d'être en vert très foncé, ou en vert, le vert tout court, c'est pas mal non plus, c'est 75 ans et plus d'espérance de vie. Et vous voyez que tous les pays développés sont dans ce vert très agréable, et que au contraire, les pays qui ont une espérance de vie de moins de 50 ans, c'est-à-dire un peu comme la France en 1900, eh bien c'est évidemment surtout les pays d'Afrique subsaharienne. Je veux insister sur ce premier point, après on va passer au second, sur le fait que on est dans une situation où, de façon, on peut dire presque inexpliquée, stupéfiante, l'espérance de vie augmente régulièrement. On se demande quand ça va s'arrêter, mais ça fait très longtemps qu'on peut présenter cette diapositive, et elle est toujours vraie. Un jour, on va peut-être s'arrêter, mais elle augmente régulièrement de 3 mois par an. Et vous voyez, là, je vous ai mis les cinq dernières années. L'espérance de vie actuelle des hommes en France est 77 ans, à peu près, et c'était 75 ans en 2000. C'est-à-dire que on a gagné 1 an et demi en 5 ans. C'est toujours ce rythme de progrès, si on prend ça comme un critère de progrès de la santé. L'espérance de vie sans incapacité, qui est un autre calcul, qui est pas ici, c'est-à-dire la vie debout, pas la vie grabataire, eh bien, elle augmente aussi dans les mêmes proportions. C'est extrêmement important de dire ça. On ne gagne pas de la vie simplement pour mettre les gens avec une maladie d'Alzheimer dans une maison de retraite, non. L'espérance de vie sans incapacité augmente, elle augmente même un peu plus vite que l'espérance de vie tout court. Donc, vous voyez que si il est vrai qu'on a modifié énormément l'environnement au cours du XXe siècle et de ce début de XXIe siècle, mais vous voyez aussi que les conséquences globales, pour l'instant, ne sont pas du tout, il n'y a pas de conséquences inquiétantes. Alors, on va prendre un point spécial, justement. Maintenant, c'est le second point. C'est la relation entre cancer et environnement, parce que c'est un sujet très important et un sujet presque de polémique. Alors, le premier problème, et il est surprenant de voir que des fois dans les journaux, il est extrêmement maltraité, c'est: est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de cancers? Parce que s'il n'y a pas d'augmentation du nombre de cancers, c'est tout de même, on va pas trop se demander à quoi c'est dû l'augmentation du nombre de cancers, vous êtes d'accord. Mais est-ce qu'il y en a une? Et s'il y en a une aussi, ou s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour limiter le risque de cancer? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un masque 24 heures sur 24 pour éviter les particules de pollution atmosphérique, ou faire d'autres choses? Eh bien, la mortalité par cancer en France, on va pas passer trop de temps sur ces figures-là. Vous voyez, toutes ces courbes, ce sont différentes localisations de cancer. Et vous voyez quelque chose à gauche qui sort vraiment des autres courbes, c'est le cancer du poumon. Vous voyez à quel point il augmente et puis il est en train de baisser, et repenser à la consommation de cigarettes que je vous montrais tout à l'heure. Et vous voyez au contraire chez les femmes à droite, il est beaucoup plus bas, parce qu'il est à cause de la différence historique que j'ai montrée. Les femmes ont commencé à fumer beaucoup plus tard, 50 ans plus tard. Vous voyez que la courbe est en train de monter. Et elle n'est pas du tout en train de descendre chez les femmes. Puis vous avez chez les femmes, vous avez chez les hommes, l'autre courbe que je vais vous montrer, parce que je vais la commenter tout à l'heure pour que vous ayez une idée méthodologique de comment on regarde ce genre de données, c'est le cancer de la prostate qui lui baisse, mais on va revenir là-dessus. Alors quand on veut comprendre ces choses-là, quand on veut répondre à la question est-ce qu'il y a plus de cancer, il y a en tout cas deux questions qu'il faut commencer à avoir en tête, et c'est vrai que dans les journaux, par exemple, ça n'a pas toujours été le cas. Premièrement, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du nombre de cancers ou du nombre de morts par cancer? Par exemple, si on fait aucun dépistage, on trouve aucun cancer. Donc comme ça, on est tranquille. Si on fait beaucoup de dépistage, on trouve beaucoup de cancers. Donc, si on prend par exemple l'exemple du cancer de la prostate, eh bien, il y a beaucoup plus de cancers de la prostate qu'autrefois, mais il y a moins de morts. Pourquoi? C'est parce que maintenant, on a des techniques de dépistage très puissantes, et en plus, il y a une pression, exagérée à mon avis, pour que les hommes aillent se faire dépister. On sait en gros que tout homme de 80 ans a plus ou moins un petit cancer de la prostate qui est pas très grave, qui traîne. C'est une maladie extrêmement fréquente, dont il mourrait pas probablement si on le dépistait pas. Mais maintenant, on sait qu'il l'a, avant on le savait pas. Donc il y a de plus en plus de cancers. Mais pendant ce temps-là, la mortalité tombe. Donc il n'y a pas à s'inquiéter du fait qu'on découvre plus de cancers, ça n'a pas de conséquences pour les personnes. L'autre exemple que je vous montre, qui est encore plus étonnant, c'est l'exemple du cancer de la thyroïde après Tchernobyl. Eh bien, le cancer de la thyroïde après Tchernobyl, il y a de plus en plus de cancers de la thyroïde en France. Mais Et c'est le rapport officiel de l'Institut de veille sanitaire. Hein. C'est pas juste une opinion personnelle qui le confirme parce que le sujet est tellement polémique. Mais l'augmentation a commencé exactement sur le même rythme 10 ans avant Tchernobyl en France. Simplement parce que on s'est mis à dépister les cancers de la thyroïde de plus en plus. Et donc, on a trouvé de plus en plus de cancers de la thyroïde. En fait, il y a beaucoup moins de morts maintenant qu'il y en avait autrefois. Le second paramètre qu'il faut regarder, c'est le problème du vieillissement. Parce que la population française, elle vieillit. Et voilà l'explication sur le nombre de cancers globaux. Et bien sûr, il faudrait regarder ça cancer par cancer, etc. On n'a pas le temps. On essaye d'avoir quelques messages pour pouvoir discuter ensemble si on veut après. Ça, c'est le chiffre global. C'est vrai que le nombre de morts par cancer de 1980 à 2000 a augmenté de 16%. Donc, on peut dire, et très faussement, attention, il y a de plus en plus de morts par cancer, c'est l'environnement. On peut dire, il y a de plus en plus de morts par cancer, c'est peut-être l'environnement, on vit dans un environnement épouvantable, etc. Enfin, tout de même, il faut compter le fait qu'on est passé dans la même période de 55 à 60 millions, à peu près, d'habitants, donc la population a augmenté de 10%, donc c'est normal qu'il y ait plus de morts parce qu'il y a plus de gens, et surtout que le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans, c'est là qu'on recrute malheureusement les morts par cancer, a augmenté de 21%. Si bien que la réalité sur le risque de mort par cancer, c'est qu'il y a une diminution, parce que 10, ceux-là, plus 21, qui sont ce qu'on attendait à cause du vieillissement de la population et de l'augmentation du nombre de gens, eh bien, ça fait 31, c'est beaucoup plus grand que 16, en fait, on a 15% de différence. Alors, il y a 3 cancers où à coup sûr il y a une augmentation, dont 2 sont, en tout cas le second est probablement lié à des facteurs environnementaux qu'on est en train de rechercher, comme des facteurs environnementaux du type peut-être, ce n'est pas pesticides ou des choses comme ça, c'est lymphome non hodgkinien, donc c'est une maladie du système hématopoïétique, une sorte de leucémie, on sait pas ça, mais enfin, en gros. Et puis les tumeurs cérébrales, on ne sait pas trop pourquoi elles augmentent, ce sont des cancers assez peu fréquents. Puis il y a un cancer qui augmente énormément, un seul, plus 80% en 10 ans, c'est le cancer des bronches. Et ça, c'est très clair pourquoi, c'est le tabac. Il y a un groupe de l'Organisation Mondiale de la Santé qui a fait dans le journal médical, un des journaux médicaux les plus prestigieux, en tout cas le plus prestigieux en Europe, le Lancet, une revue de la mortalité par cancer dans le monde entier. Hein, c'est le monde entier, ça. En gros, on estime qu'il y a 7 millions de morts par cancer, et voici les nombres qui seraient évitables si on supprimait certains facteurs de risque. Si on supprimait le tabac, il y aurait 1 500 000 en moins, l'alcool 350 000. Les comportements sexuels à risque, c'est plutôt dans les pays en voie de développement, mais pas seulement, c'est 235 000, c'est le cancer du col, de l'utérus, qui est lié un virus, et c'est pour ça que vous entendez peut-être parler dans les journaux de l'arrivée d'un vaccin, l'obésité, qui est liée à certains cancers, les injections contaminées dans le système de soins, ben ça par exemple en Égypte c'est le cas, et ça va donner de l'hépatite C, qui va donner du cancer du foie, et la pollution urbaine pour un petit nombre. En gros, on pourrait éviter 37% des morts dans le monde entier. Je vais peut-être aller vite là-dessus, simplement pour rappeler que s'il y a un facteur de risque important, dont j'ai dit une fois de plus qu'il serait tout à fait faux de penser que c'est un facteur individuel, c'est le tabac. C'est pas du tout un facteur individuel. Non seulement c'est une pression de la société, mais c'est une pression économique. Actuellement, les grandes sociétés de tabac sont en train d'investir, c'est comme ça qu'on peut dire, à perte, en Afrique. C'est-à-dire qu'elles vendent et qu'elles font parvenir du tabac en Afrique et aussi en Asie, à perte, parce qu'elles sont en train de se construire des marchés pendant 10 ans. Bon, les Africains qui se mettent à fumer beaucoup et qui ne fumaient pas avant, c'est pas un choix individuel, c'est vraiment une pression économique, sociale, environnementale, comme vous voulez, mais c'est la pression de la société. Donc c'est extrêmement important de connaître les chiffres, hein, mais on va les rappeler. Je vais dire un mot d'épidémiologie, parce que c'est une étude très belle que je voudrais vous montrer et qui est assez exceptionnelle, qui en plus va clore ce sujet sur le tabac. Dole a été, c'est un épidémiologiste anglais, qui a sûrement été un des plus grands épidémiologistes du siècle, et il a vécu très vieux, cet homme-là. Et il était très persistant dans ses idées. Alors il a fait en 1950 un travail sur 35 000 médecins anglais. Les 35 000 médecins anglais volontaires qui ont été d'accord pour dire qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils consommaient, etc. De façon régulière, ils étaient régulièrement interrogés. Et puis ensuite, on suivait les maladies qu'ils avaient et de quoi ils mouraient. Donc, des études, des travaux absolument énormes. On va juste prendre quelque chose qui est sur ce sujet-là, dont on parle à l'instant, qui est la mortalité totale, simplement totale, selon que ces médecins étaient fumeurs ou non fumeurs. Parce que la fin de l'histoire, c'est qu'en 2004, 54 ans après avoir commencé son premier travail, il a fait le bilan de ce qui était arrivé à toute cette population de 34 000 médecins anglais. Par conséquent, il a pu suivre tout ce qui se passait sur une génération entière de médecins, et il a pu les suivre en fonction de leur environnement, de leurs facteurs de risque, etc. Et il y a un facteur qui éclate, c'est le fait d'être fumeur ou non fumeur. Quand on est non fumeur, on a cette courbe de mortalité-là, alors on finit par mourir de toute façon, mais plus ou moins tôt. Et vous voyez qu'à 70 ans, par exemple, il y a 81% des fumeurs, c'est ça que ça veut dire, qui sont survivants, tandis que il y a 58% seulement, ce qui fait tout de même 23% de moins, des fumeurs qui sont survivants. Les non-fumeurs, 81%, et les fumeurs, 58%. Vous voyez qu'ici, les courbes, elles sont distinctes de 10 ans. Donc, c'est pas une petite chose, c'est vraiment quelque chose qui cogne très fort sur la mortalité. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est pas ça. Ça, c'est... Il faut avoir compris cette courbe pour comprendre les suivantes, mais c'est les suivantes. Qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête de fumer à 55 ans? Ben, quand on s'arrête de fumer à 55 ans, il y a quelques milliers de médecins qui ont fait ça, alors ils peuvent faire toutes ces courbes, eh bien, vous voyez que la courbe de mortalité, elle se rapproche de celle des gens qui n'ont jamais fumé. Elle est partie de la bleue, ça c'est ceux qui ont fumé toute leur vie. Maintenant, ceux qui sont arrêtés à 55 ans, eh bien, ça se rapproche nettement. Alors, qu'est-ce qui se passe si on s'arrête de fumer, pardon? Qu'est-ce qui se passe si on s'arrête de fumer à 45 ans? Bah, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas très spectaculaire. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'arrête de fumer à 25 ans? C'est-à-dire, on a fumé avant, mais on s'arrête de fumer à 25 ans. Mais vous voyez que ceux qui ont arrêté de fumer à cet âge-là, ils ont eu un risque de mort absolument identique à celui des non-fumeurs. C'est pour ça que on n'hésite pas à dire à quel point c'est important d'arrêter de fumer tôt, parce que dans ce cas-là, c'est très difficile, en fait. Dès qu'on a commencé, c'est extrêmement difficile. J'ai un de mes collaborateurs qui est un psychiatre spécialiste de l'addiction et qui classe le tabac dans les drogues qui sont le plus difficile à quitter. Et dans son expérience, par rapport à certaines drogues dures, il est plus difficile de quitter le tabac que d'autres drogues. C'est pas du tout facile de s'arrêter de fumer, c'est pour ça qu'on en parle tout le temps. Mais quand on y arrive, c'est très efficace. Bon, on va gagner un petit peu de temps pour passer à un troisième sujet, climat et santé. D'abord, on va dire dans la diapositive suivante que le réchauffement global, c'est quelque chose lié à l'homme, c'est-à-dire causé par l'homme, c'est une notion qui est majoritairement admise. Mais on va regarder quelques petits points, très vite, comme tout à l'heure, on va regarder comment l'homme réagit à des variations climatiques habituelles. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des variations climatiques exceptionnelles, comme par exemple la canicule, dont vous vous rappelez peut-être, qui était il y a quelques années, là, il y a 3 ans. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur le réchauffement global? Alors, les faits sur le changement climatique, il y a un groupe intergouvernemental pour le changement climatique auquel beaucoup, comme son nom l'indique, de gouvernements sont associés, mais aussi des académies, dont celle-ci, qui fournissent des contributions. Donc, l'opinion majoritairement admise, c'est que, il y a des faits d'abord, c'est que, ça c'est pas une opinion, c'est que les températures ont augmenté, le niveau de la mer augmente, la glace diminue, etc. L'opinion généralement admise, c'est que c'est du fait de l'homme, c'est ce que vous avez souvent entendu évoquer, en termes d'effet de serre, etc. C'est pas admis à 100%, parce que tout de même le réchauffement global en question a commencé à la fin du 19e siècle. Première remarque des opposants à la théorie. Et deuxième remarque, quand on dit le réchauffement global, c'est qu'on mesure l'évolution de la température. Or, il y a des bons instruments de mesure, en fait, que depuis assez récemment. Mais il y a donc un certain nombre de personnes qui ne sont pas totalement convaincues que le réchauffement auquel on assiste est causé par l'homme, mais collectivement, le groupe qui est responsable de réfléchir collectivement au sujet juge que c'est sûrement le cas. Tout de même pas quelque chose qui est, disons que c'est une chose qui est 90%, mais pas 100% évident. On va juste regarder la courbe de droite, et je vais vous dire ce que c'est la courbe de droite. On s'est demandé quelle était la température idéale pour mourir le moins possible. Et on s'est demandé ça dans plusieurs villes. Il y a très peu d'études, en fait, là-dessus. Par exemple, en Finlande, donc, on a regardé la mortalité tous les jours, puis on a regardé quelles étaient les températures où les gens mouraient le moins. Et on a trouvé, sur plusieurs années, que la meilleure température, la température idéale pour le Finlandais, pour mourir moins, eh bien, c'est du côté de 15 degrés. On a fait pareil à Londres. Londres, c'est un petit peu plus chaud. On a fait pareil à Athènes. Vous voyez, la température idéale, celle où on meurt le moins, c'est 25 degrés. Pourquoi cette diapositive, elle est intéressante? C'est simplement pour dire que l'homme, évidemment, s'adapte à son climat local. Évidemment, quand on est à Athènes, on est habitué à des températures du type de 15 degrés, de type de 25 degrés, et c'est là qu'on meurt le moins. On n'est pas tellement à l'aise à la température idéale de la Finlande, voyez, qui est 15 degrés. Ben, on est largement au-dessus de la ligne rouge, qui est la valeur seuil, parce que c'est une température anormale pour Athènes, quoi. Donc toujours est-il que ce que montrent ces fameuses courbes en U qui s'observent dans énormément de pays, c'est qu'il y a sûrement une adaptation d'une population à sa température environnante et que cette adaptation se fait bien. Par conséquent, ce qu'on peut penser, c'est que s'il y a un réchauffement global et que la température est 3 degrés plus forte à Paris qu'elle ne l'était maintenant, eh bien, la population s'adaptera et elle saura se déplacer vers ces températures-là sans problème. On va passer au problème de ce qu'on appelle les changements globaux. Global change en anglais. J'ai mis longtemps à comprendre le mot. Global, hein, en anglais, c'est un faux ami. Ça veut dire mondial, le globe mondial. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans ces phénomènes-là, la chose très importante, vous savez, c'est le phénomène El Niño et La Niña. El Niño, c'est la phase chaude, et La Niña, c'est la phase froide d'un espèce de système périodique qui oscille, hein, et qui s'explique, en gros, par des variations de la température d'eau à la surface. Ça a des très grosses conséquences, et ça a des très grosses conséquences sur la santé, bizarrement. D'importantes conséquences. Par exemple, on a démontré que c'est variation, une fois de plus globale, qui se passe à l'échelle des océans mondiaux, hein, avait un impact sur le choléra, et puis sur d'autres maladies aussi. Alors, je vais juste vous parler du choléra, très brièvement. Par exemple, en 1997, il y a eu une forte épidémie de choléra en Amérique du Sud, très forte, et en fait, elle était très associée à un passage El Niño, et on sait même dire à peu près pourquoi maintenant. On sait dire que, en gros, El Niño fait monter la température de l'eau. Cette température de l'eau fait que le phytoplancton se développe beaucoup mieux, donc le zooplancton qui vit sur le phytoplancton, et lui, il abrite l'agent du choléra, le vibrio cholerae, hein, et du coup, il donne des chances de diffusion à cette maladie qu'elle n'a pas dans un autre système climatique. Donc, ces grands changements globaux peuvent avoir un impact sur certaines maladies de façon surprenante. C'est même le cas pour la grippe, où on a montré, même en France, par exemple, en particulier en France, que la taille des épidémies de grippe, ici c'est des millions, hein, des millions de malades, une épidémie moyenne de grippe dans la position chaude du balancier El Niño-La Niña, c'est 2 millions, tandis que dans la position froide, c'est 4 millions. Dernier point sur le climat, les problèmes de canicule, parce que je vais insister tout de même sur les phénomènes extrêmes. Il y a des données historiques d'abord. Une donnée historique que les spécialistes de la canicule connaissent très bien, c'est une canicule exactement semblable à celle qu'on a eue en France du point de vue en particulier des conséquences politiques, du remue-ménage médiatique, le maire a manqué démissionner, etc., etc. Un gros drame politique avec 739 morts. Je vous rappelle qu'en France, il y a eu 15 000 morts. Hein. Mais C'était une très grosse canicule, qui, en tout cas, aux grandes conséquences. Mais en réalité, il y a eu des tas de canicules tout de même, qui ont été décrites dans l'histoire, qui en général passaient, ne faisaient pas beaucoup de remue-ménage parce que les gens étaient malheureusement trop habitués aux catastrophes. Mais par exemple, celle-ci qui faisait 11 000 morts. D'abord, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'on se trouve en effet maintenant dans des phénomènes climatiques exceptionnels. Ce que je veux dire là, c'est que tout à l'heure, j'ai expliqué que le fait que la température moyenne monte de 3 degrés, probablement les populations savent s'y adapter. Mais en revanche, les modifications de climat s'accompagnent de phénomènes exceptionnels, comme, bien sûr, des canicules, comme, bien sûr, probablement, en tout cas, les grands ouragans, le tsunami, enfin ce genre de choses. Et ici, c'est une courbe qui avait été faite pour montrer, par exemple, ça c'est tous les mois d'août depuis probablement un siècle, et on a pris la température moyenne du mois d'août. À chaque fois qu'il y avait une température, on faisait un trait comme ça, et ça, en somme, ça représente les températures moyennes des mois d'août pendant un siècle, je crois que c'était en Suisse. Et en fait, vous voyez que la température moyenne du mois d'août 2003, elle était tout à fait en dehors de l'habituel. Ces gens-là, ils ont fait un modèle mathématique en se disant, admettons que ça arrive une fois de temps en temps, que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais qui arrive dans un phénomène régulier. Eh bien, si le phénomène était régulier, il faudrait imaginer qu'il arrive tous les 45 000 ans, pour expliquer quelque chose d'aussi extrême que ce qu'on a vu. Donc, en effet, ces changements environnementaux du climat s'accompagnent probablement d'événements climatiques exceptionnels. On va regarder vite cette courbe, après on passera au quatrième sujet. Cette courbe, c'est quelque chose de très simple. C'est le nombre de morts chaque mois, en mai, de 1945 à 2003. Voilà. Et vous voyez, en gros, on meurt plus ou moins de la même façon en mai. Enfin, ça varie entre 42 000, 44 000. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en août? Eh ben, en août, si on fait la même courbe en août, eh ben, vous voyez, voilà la canicule 2003. Et vous voyez à quel point on sort des dessins habituels. Je vais passer là-dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Et je vais juste redire que la chose importante dans les événements climatiques extrêmes, c'est le nombre de morts qu'ils font, les ouragans. On a eu l'exemple de Katrina, etc. C'est environ 100 000 morts par an, d'après l'OMS. C'est énorme. Mais pour chaque mort, il y a 1000 victimes indirectes. Des gens qui ont plus de logement, qui ont perdu leur travail, etc. Donc ça fait 100 millions de personnes par an qui sont soumises, qui sont victimes des événements climatiques extrêmes. Ça, c'est des chiffres qui ont été publiés avant la Nouvelle-Orléans, etc. Donc évidemment, c'est inquiétant de penser que ces chiffres peuvent augmenter. Et bien entendu aussi, la plupart des victimes sont dans des pays en développement, et quand c'est des pays développés, les victimes, c'est toujours les personnes âgées, les pauvres, les gens mal adaptés au système de santé, même à la Nouvelle-Orléans, vous avez vu ça, bien sûr. Donc, à mon avis, le gros problème environnement et santé qu'il faut regarder, c'est pas les petites augmentations de maladies, c'est vraiment ces événements extrêmes. Un point qui est beaucoup discuté, je vais finir là-dessus ce chapitre, un point qui est beaucoup discuté, c'est le problème... Est-ce que le réchauffement global, qui fait que ça va être plus chaud chez nous, va amener des maladies, disons, tropicales que nous n'avons pas pour l'instant, puisqu'il fera une température africaine, peut-être, chez nous? Alors, d'abord, les climatologues disent des choses compliquées sur l'évolution du climat. Ils disent, par exemple, nous avons entendu à l'Académie des sciences un des meilleurs climatologues, qui nous a expliqué que les conséquences des changements climatiques sur l'Europe vont peut-être être contrastées. On peut penser qu'il y aura une partie de l'Europe qui réchauffera et puis une autre qui va refroidir. Et au sud de l'Europe, par exemple le genre Nice, Marseille, fera beaucoup plus chaud que maintenant, mais au nord, il fera beaucoup plus froid. Alors il y a une ligne de partage, et cette ligne de partage, nous a-t-il dit, passerait par Lyon, mais il a dit... Pour être honnête, il faut dire qu'on l'estime à 500 km près. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup d'imprécisions. Évidemment, selon que c'est exactement Lyon ou c'est 500 km au-dessus, 500 km en dessous, ce sera pas pareil. Mais enfin, admettons pour commencer qu'il y a en effet ce réchauffement. Est-ce qu'il faut craindre vraiment qu'on va Est-ce qu'il faut craindre la survenue de maladies du type malaria qu'on avait oublié? C'est vrai que c'est, je vous rappelle ici que c'est une maladie extrêmement importante, qui a 300-500 millions de cas par an au monde, 1 million de morts par an, plutôt plus, on peut dire 1 million et demi. Et je vous rappelle que c'est une maladie parasitaire qui est médiatisée par un moustique qui pique l'homme, voilà, et l'agent du paludisme se reproduit, enfin dans un cycle de reproduction qui a besoin à la fois du moustique et de l'homme. Enfin, ne gardons dans notre souvenir que ça. Si on supprime les hommes, le parasite disparaît du paysage. De même, c'est peut-être plus simple de supprimer les moustiques tout de même. La géographie du paludisme actuel, c'est ça. Bien entendu, vous voyez cette zone-là. Et bien entendu, l'idée la plus simple qui vient, c'est si ça réchauffe, ça va peut-être monter, ça dépend des précipitations, etc. C'est vraiment une idée qu'il ne faut pas avoir en tête. Parce que il n'y a pas très longtemps, il y avait beaucoup de paludisme, par exemple en Afrique du Nord, il n'y en a plus. Pas très longtemps, c'est il y a 30-40 ans. 50 ans peut-être. Il y avait vraiment beaucoup de paludisme. Il y avait aussi du paludisme, bien sûr, beaucoup de paludisme en Grèce, beaucoup de paludisme dans le sud de la France, mais il n'y en a plus. Et c'est pas parce que le climat a refroidi, toujours les problèmes d'environnement social, c'est parce que on a su lutter contre les moustiques, on a su prendre les mesures de prévention, on a su enlever, on a su faire ce qu'il fallait dans la lutte antivectorielle. Et donc, c'est ça le premier facteur pour limiter ou étendre, au contraire, une épidémie. Et le grand outil, faire un tout petit passage polémique, le grand outil de la lutte contre le paludisme, ça a été le DDT. Quand il a été découvert, compte tenu des chiffres dont je vous ai parlé, 1 million, 2 millions de morts, ça a été une découverte formidable. D'ailleurs, son auteur a eu le prix Nobel. Vous voyez que ça a eu des conséquences extraordinaires. Il n'y a pas beaucoup d'actions de santé publique qui ont des conséquences comme ça, puisque en Grèce, il y avait 1 à 2 millions de cas, c'est ce que vous disiez par an, il n'y en a plus. En Inde, 1 million de morts en 45 et 1 000 à 5 000 en 60. Au Sri Lanka, 2 800 000 cas en 48 et 17 cas, pas 17 millions, hein, en 64. Et l'estimation globale qu'on fait du nombre de vies sauvées par le DDT, c'est environ 100 millions. Et pourtant, il a été interdit. Il a été interdit et vraiment sous beaucoup de pression environnementaliste. Par exemple, le DDT, parce que, en gros, on n'a pas trouvé, sauf dans des études épidémiologiques ultra minoritaires, d'effets négatifs du DDT sur la santé des hommes. Mais, guillemets, il faisait beaucoup de mal à certaines portions de l'environnement. Par exemple, il a été coupable de la disparition de cet aigle, qui était extrêmement rare, et après, cet aigle est revenu. Le EPA, c'est l'Agence pour l'environnement américaine, et elle a demandé le ban du DDT en 1972. Et tout de même, maintenant, on est en train de se questionner parce que y a le chikungunya, il y a la maladie du Nil, le virus du Nil, etc., qui arrive. Et évidemment, le Centers for Disease Control américain dit pour combattre les piqûres, rabaissez vos manches, mais on a bien le sentiment, par exemple à la Réunion avec le chikungunya, etc., que peut-être tout de même le DDT ce serait pas mal et que on ne peut pas juste compter sur baisser les manches. C'est pour ça que le DDT est en train de reprendre service. La dernière partie, c'est sur les maladies émergentes, puis je dirai un mot de la pandémie grippale. Alors les maladies émergentes, vous avez remarqué qu'il y en a sans cesse, le virus d'Ebola, la fièvre de la SARS, les fièvres hémorragiques, la fièvre de vallée du Rift, j'en ai parlé, le SARS en 2003, etc. Beaucoup de maladies émergentes en ce moment. Alors, toujours en épidémiologiste débutant qu'on est, la première réaction, c'est peut-être que maintenant on les regarde et qu'avant on les regardait pas. On a peut-être les moyens de les regarder et avant on n'avait pas les moyens. C'est peut-être pas juste qu'il y a des nouvelles maladies. Mais enfin, on a tout de même le sentiment d'une accélération du nombre de maladies. Et le dernier passage de mon, la dernière partie de mon petit topo, ça va être pour vous montrer justement le rôle des mathématiques pour faire des prévisions sur ces choses-là. Alors, inutile de dire que Un très gros problème, c'est l'augmentation de la population. Vous voyez comment la population a augmenté depuis 65 000 ans. Vous voyez que dans le temps récent, l'augmentation est absolument exponentielle. Et évidemment, on peut penser tout à fait que c'est ça qui explique que, alors qu'on était dans des populations clairsemées, il n'y avait pas trop de maladies émergentes, maintenant, la densité de population est tellement forte que n'importe quelle petite maladie explose. C'est un peu ça qu'on va regarder avec des modèles mathématiques. Je me suis dit que j'avais tort, d'ailleurs, de me dire ça. Mais je me suis dit qu'on allait tout de même faire un petit théorème ensemble. J'ai plusieurs filles qui sont au collège, au lycée. Et il y en a une qui m'a dit que c'était absolument épouvantablement compliqué, et l'autre qui m'a dit que c'est trop simpliste. Donc, tant pis, j'y vais. C'est simplement pour vous montrer les raisonnements sur quelque chose de très simple, et puis pour faire ensemble un théorème épidémiologique. Alors, c'est le théorème le plus simple, et on sépare une population en trois catégories, toujours. I, c'est facile, c'est la catégorie des personnes qui sont infectieuses, qui sont contagieuses. Par exemple, peut-être en ce moment, je suis grippé, je peux contaminer des personnes dans cette salle. S, c'est les sujets qui sont susceptibles d'être contaminés. Évidemment, si vous êtes vacciné contre la grippe, je peux pas vous contaminer. Si vous avez déjà eu la grippe l'an dernier et que vous avez une immunisation, je peux pas vous contaminer. Donc ceux qui sont susceptibles d'être contaminés. Et R, j'ai mis des guillemets parce que c'est le mot professionnel, c'est les gens retirés, c'est ceux qui sont pas dans le jeu parce que ils sont passés par l'infection et maintenant ils sont guéris, ils ne participent pas au jeu de la transmission. Alors, je vais faire une notation. Il faut qu'on fasse des notations pour faire notre théorème. On a trois transparents. Hein. Ça va pas être la mort. Normalement, on y arrive. Normalement, c'est un théorème qui se fait avec des dérivés, etc. Mais on arrive à le faire sans rien. D'abord, N, c'est la date. Donc aujourd'hui, par exemple, on est le 286e jour de l'année. Donc demain, on sera le 287. IN, c'est le nombre d'infectieux aujourd'hui. Le nombre de gens, par exemple, qui, dans cette salle, portent sont contagieuses pour la grippe. D'accord? IN plus 1, c'est le nombre de gens qu'il y aura demain dans notre communauté. Ça va comme notation? C'est simple. Bon. Alors, s'il y a une épidémie, IN plus 1 demain sera plus grand qu'IN. IN plus 1 moins IN sera positif. Vous êtes d'accord? Si ça diminue, il n'y a pas d'épidémie, c'est bon. Alors, maintenant, une notion. Le taux de contagion. Je l'ai fait avec un bal populaire. Vous avez dans un bal X garçons et Y filles qui arrivent. Donc, a priori, sans les regarder, ça fait XY coupe possible. Vous êtes d'accord? 17 garçons, 3 filles, 51 couples possibles. Mais seulement une proportion B réussira. Je ne dis pas ce que c'est réussir. Donc, il y aura une proportion de ces couples, XY, B, qui réussira. Tout à l'heure, au lieu que ce soit des couples garçons-filles, ce sera des couples susceptibles infectieux, et il y a une proportion B qui réussira à faire un nouveau malade, à transmettre la maladie. Hein ? Mais là, on reste dans le bal. C'est un modèle mathématique parce qu'on suppose que tous les couples sont possibles, que les rencontres se font au hasard, qu'il n'y a pas de choix entre les personnes. Simplement, il y a 7 garçons, 13 filles, 7 fois 13 couples, et on regarde là, on dit il y a une proportion qui va réussir. C'est un modèle très simplifié, évidemment. On va revenir ensuite là-dessus. Alors maintenant, on fait le théorème. Voilà les gens qui sont malades actuellement, contagieux. Eh ben demain, on regarde combien il y en aura demain. Hein, c'est IN plus 1. Demain, il y en aura moins, parce qu'un certain nombre auront guéri, une proportion G, qui va guérir, ou mourir, ou être enfermé, mais enfin qui seront plus là. Ça, c'est la proportion G, c'est le pourcentage de gens qui vont guérir. Par exemple, il y a 30 malades ici, 30 personnes qui sont contagieux, mais demain, un tiers sera guéri, il n'y en aura plus que 20, G, ce sera un tiers. Mais aussi, il va y avoir des nouveaux malades. C'est des susceptibles qui vont s'infecter. Ça, c'est le coup du bal. Vous Vous voyez, SN, c'est les susceptibles du jour N, IN, c'est les infectieux, ça, c'est les couples possibles, et puis il y a une proportion qui s'infecte, donc IN plus 1, ça fait cette formule-là. Et on est arrivé au théorème, à peu près. On va juste faire des petits changements de variables, pas des changements de variables, mais vous voyez, ça, c'est la formule de tout à l'heure. IN plus 1, c'est BSN IN plus IN. Je vous promets que je vais pas continuer dans ce genre-là longtemps. Mais on va avoir fini maintenant, tout de même. IN plus 1, c'est BSN IN plus IN moins G IN. Alors, je fais juste IN plus 1 moins IN. J'enlève ça. Ça fait BSN IN moins G IN. Puis, je mets IN en facteur. Alors, ça fait BSN moins G. Eh bien, quand est-ce qu'il y a épidémie? C'est si ça est positif. Alors, il faut que ceci soit positif. Que BSN moins G soit positif, il faut que SN soit plus grand que G sur B. C'est ça qu'on appelle le seuil épidémique dans une population. Et pourquoi c'est un théorème extrêmement important qui a été énoncé en 1937? Eh bien, c'est parce que ce qu'il dit, c'est qu'une épidémie éclate quand il y a beaucoup de gens susceptibles, pas quand il y a beaucoup de gens contagieux. C'est quand la population est grande que l'épidémie se développe. A priori, si on n'avait pas vu ce théorème, on serait dit, si on met beaucoup de contagieux, l'épidémie va éclater. Ben non, ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui sont susceptibles d'attraper la maladie. Évidemment, plus les populations sont grandes, plus ce risque augmente. Et ça, c'est pour vous montrer des épidémies de rougeole qui ont été étudiées, leur probabilité d'extinction, qui a été étudiée selon la taille de la population en milliers. Donc ça, c'est dans des villes de 10 000 personnes, il y avait une épidémie qui commençait, elle avait 60 chances sur 100 de mourir. Elle s'écrasait, l'épidémie, facilement. Mais dans les villes, les grandes villes, 500 000 personnes, 1000 fois 1000, 1 million de personnes, quand l'épidémie commence, sa probabilité d'extinction devient zéro. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut vraiment prédire mathématiquement et qu'on voit sur le terrain. Comme on est dans cet endroit, je me suis dit que puisque je vous parlais d'épidémiologie mathématique, fallait que je vous parle tout de même de cette personne dont tout le monde parle dans les grands journaux internationaux, je veux dire pas seulement en France, Bernoulli, hein, qui était membre de cette académie, hein, et qui a démontré que contre la variole, l'inoculation, c'était de prendre un peu d'une croûte de malade, c'était avant la vaccination, et de l'inoculer à un enfant. Ils avaient compris que on n'avait jamais la variole deux fois, et que peut-être en mettant un enfant au risque d'avoir la maladie sous une forme atténuée, espérait-il, en prenant une croûte chez un autre, peut-être qu'il lui ferait avoir une petite maladie, et que du coup, il éviterait la grande. Et ce qu'il y a, c'est que lui a démontré par un modèle mathématique plus compliqué, parce que c'était avec des équations différentielles, des dérivées, etc., mais tout à fait du principe de celui que je vous montrais, que si on faisait l'inoculation, ça ferait gagner 3 ans d'espérance de vie, même si cette inoculation avait pas mal de cases, parce qu'elle tuait tout de même une personne sur 300. Donc c'était beaucoup. Et ça, c'est un grand résultat. Et ce qu'il y a de formidable dans la science, vous voyez, c'est que pour faire cette modélisation, il y avait besoin de données. Eh bien, les données, elles ont été fournies par le découvreur de la comète de Halley, hein, qui a fait la première table de mortalité au monde, avec lui aussi un modèle mathématique. Alors, eh ben, on trouve à quelques étages au-dessus leur correspondance, parce qu'ils se détestaient vraiment, d'Alembert, un des fondateurs de la Grande Encyclopédie, qui était pas du tout d'accord avec ce raisonnement. Non seulement il trouvait que les approximations étaient un peu grandes, il était d'accord avec la conclusion mathématique, mais il disait quelque chose que je voudrais vous commenter parce que je vous ai cassé les pieds avec le tabac tout à l'heure. Et donc, c'est pourquoi je voudrais vous commenter ça. Qu'est-ce qu'il disait d'Alembert? Il disait, écoutez, mon éminent confrère, le mathématicien, montre qu'on gagnera 3 ans d'espérance de vie, mais que bien que l'inoculation tue une personne sur 300 dans la semaine où elle va être pratiquée. Il dit, quel est le fou qui échangerait un risque immédiat, une chance sur 300 de mourir, contre un avantage lointain, gagner 3 ans d'espérance de vie dans 30 ans. Et il fait cette discussion dans les comptes rendus de cette académie, enfin les ancêtres des comptes rendus de cette académie. Il fait des discussions très approfondies sur comment on compare un risque immédiat avec un avantage lointain, et est-ce que vraiment ces arguments rationnels peuvent marcher. Pourquoi je pense au tabac? Parce que le problème du tabac, c'est que il faut échanger un plaisir, car il y a un plaisir à fumer, immédiat, hein, contre, évidemment, un bénéfice lointain. Et donc, les gens prennent leurs bénéfices et ne pensent pas forcément au fait qu'ils vont gagner énormément d'espérance de vie, énormément de vie, énormément de souffrance, parce que ce sera dans plus tard. Et pour la fin, dernière personne de l'Institut, Voltaire, qui dès 1727, si vous pourrez trouver sur Internet sa lettre Philosophique 11, explique tout en avance, sans modèle mathématique. Et c'est vraiment formidable, et ça montre à quel point, dans les grands problèmes scientifiques, il faut mobiliser aussi les gens de toutes les disciplines, les astronomes, et puis les gens intelligents qui ne sont pas forcément des scientifiques. Je vais finir maintenant sur la pandémie de grippe. Alors la pandémie de grippe, là, il y a des photos de la pandémie de grippe de 1914. C'est bête, j'ai pas mon sac là, mais on vient de m'envoyer hier les masques chirurgicaux dans mon hôpital, et évidemment, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens actuellement. Alors c'est vraiment un problème environnemental, parce que vous savez que on a des épidémies saisonnières de grippe. Tous les ans, il y a des épidémies. Mais le problème, c'est quand le virus change et devient mortel, très mortel. Et ce virus, il faut qu'il mute d'une façon ou d'une autre. Et on pense que souvent, en tout cas, deux fois sur les trois dernières pandémies, ça s'est passé de la façon suivante. Le virus, il est dans des oiseaux sauvages qui sont porteurs et non malades. Il passe dans des oiseaux domestiques. Il passe des oiseaux domestiques aux porcs. Il passe des oiseaux domestiques à l'homme, c'est ce qu'on a observé, on a des cas de H5N1 actuellement, mais ce qu'on pense, c'est que c'est peut-être là que la recombinaison entre le virus de l'homme, le virus grippe de l'homme et le virus grippe de l'oiseau peut se faire et créer un nouveau virus qui sera extrêmement dangereux. Alors, les pandémies de 1957-1968 se sont presque à coup sûr passées comme ça, et celle de 1918, on pense plus qu'il n'y a pas eu ce passage par le porc, et que c'était une mutation spontanée du virus, mais l'idée est là. Je vais finir sur quelques exemples de modélisation à propos de la pandémie, mais vous avez vu tout à l'heure le coup du bal, où les gens se rencontrent au hasard, puis il y a du succès ou pas. Vous comprenez bien que pour traiter les vrais problèmes, il faut faire ce qu'on appelle de la modélisation réaliste. Ça a commencé depuis très peu de temps, en fait. Et comment on peut être réaliste? C'est d'abord en tenant compte du fait, là c'est, les gens se rencontrent au hasard. Mais quand on est réaliste, on tient compte du fait qu'ils sont ici ou là. Ils ont des localisations géographiques, et quand vous êtes à un bout de la salle de bal, vous ne rencontrez pas l'autre personne de la même façon que si vous êtes à l'autre bout. Le lieu compte. Et puis il y a aussi les relations. Si vous êtes quelqu'un qui avait des relations personnelles avec d'autres, vous avez beaucoup plus de contacts, bien sûr, que si vous êtes un pauvre isolé dans un coin. Ce à quoi on s'intéresse beaucoup, c'est au problème de déplacement. Un des problèmes de nouveau du siècle, c'est que les gens se déplacent. Ça, c'est une très belle étude de géographie, je plaide beaucoup, vous voyez, dans cet exposé de Voltaire au géographe, pour que on soit jamais encapsulé dans sa discipline. Et c'est un géographe formidable qui a réussi à avoir des données sur une famille qui a été suivie pendant 4 générations. Et voyez, et l'arrière-grand-père qui habitait dans ce petit hameau à Kettering, ça c'est 10 kilomètres, alors il allait de temps en temps vendre son poulet au hameau du coin, il a rencontré une jeune fille au bal ici, et il a fait dans toute sa vie ces déplacements-là. Le grand-père, il a commencé un petit peu à plus bouger, il a pris la calèche pour aller à Londres, il a été au canton, etc., il a tout de même plus bougé, vous voyez qu'ici l'échelle c'est 100 kilomètres. Le père, il a fait la guerre de 39-45, il a été en Pologne, il a été en Autriche, et puis quand il était plus âgé à la retraite, il a été en Corse, sur la Côte d'Azur, à Montpellier, il a été aux Alpes, etc. Voilà. Et le fils, maintenant c'est 10 000 kilomètres, le fils, il a été partout dans le monde. Évidemment, ça c'est un fait, simplement c'est bien illustré là sur des données, c'est pas sans conséquence sur la diffusion des maladies. Parce que ici, quand on a sa petite grippe, on la passe au marchand de poulet du coin, tandis qu'ici, c'est tout de suite global. Alors, il faut que j'accélère. Il y a des très grosses bases de données qui permettent, la précédente photo que j'ai passée à toute vitesse, c'est des bases de données qui documentent, par exemple, toutes les frontières administratives de tous les pays, avec des standards informatiques très précis. Il y a une formidable base de données sur laquelle nous aussi on travaille, qui s'appelle Landscan, qui a été fait par un grand laboratoire de géographie américain, qui donne sur le monde entier, donc chez vous aussi, en Corse, ou n'importe où, à La Réunion, une estimation des tailles de population dans des carrés, en fait, de 30 secondes sur 30 secondes, de latitude et de longitude, ça fait en gros 1 km sur 1 km, et qui met dans ces carrés les meilleures estimations possibles des populations, des tailles de population. Par exemple, ça, c'est une image de densité de population que produit Landscan. Mais quand vous faites un modèle de diffusion, regardez les États-Unis, au fait, c'est là les États-Unis, et vous voyez, parce que on va les revoir tout à l'heure, vous voyez où sont les densités de population, elles sont là, hein. C'est beaucoup plus dense à l'est qu'à l'ouest. Ça va être important pour tout à l'heure. Ça, c'est Landscan qui permet d'avoir les lumières, si vous voyez un peu de voir les lumières du monde avec les grandes métropoles qui sont allumées la nuit. Ça, c'est la carte des États-Unis. Je vous la montre parce que je vais, pour à peu près finir, vous montrer une simulation, une modélisation réaliste d'une pandémie de grippe qui démarre à Houston, qui est faite avec un modèle comme celui que je vous ai fait tourner tout à l'heure, mais où il y a 300 millions de points, pas 25, comme on voyait, dans lesquels les données de population, ces données de population que je viens de vous montrer sur Landscan, et on a fait des modèles de diffusion, évidemment, de déplacement. On essaye d'avoir des données pour savoir quelle est la probabilité pour que quelqu'un de New York, dans la journée, fasse 1 km autour de son domicile, ou au contraire prenne l'avion pour aller à Los Angeles, etc. Donc, intégration des données de population et des données de déplacement dans un modèle dit réaliste, du type de celui que je vous montrais tout à l'heure, avec les petites croix qui se bougeaient. Alors, c'est des modèles mathématiques tout à fait théoriques, et la question qu'on se pose, c'est oui, mais bon, est-ce que c'est vrai tout ça ? Voilà des vraies données. Un point jaune, c'est 34 SIDA. Et ça, c'est la carte des États-Unis. En 83, il y a 1004 SIDA sur tous les États-Unis. Ils sont à New York. Il y en a quelques-uns à Los Angeles, à San Francisco. Un cas ici, ou un petit cluster ici. Ça, c'est 2 ans après, il y a 10 000 cas. Tout ça, c'est des données réelles. Ça, c'est 2 ans après, il y a 100 000 cas. Il y a 500 000 cas. Et les derniers chiffres que j'ai, c'est malheureux, j'ai pas actualisé ça, mais c'est 97. Et vous voyez, ça, c'est vraiment l'épidémie de sida. Ici, c'est quoi dans la mer, là? C'est Porto Rico. Où il y a une très grosse épidémie. Il y a une très grosse épidémie. Alors vous voyez que ça, c'est des vraies données, avec malheureusement, des vrais malades. Et vous voyez à quel point la diffusion de cette épidémie, elle ressemble assez fort à celle qui était modélisée tout à l'heure. Je vais finir avec l'impact des transports aériens. Ça, c'est les transports aériens sur 500 aéroports, il y en a partout, ça n'apporte pas grand-chose à ce que vous savez, cette diapositive, vous savez que tout le monde connecte tout le temps. Eh bien, on fait un modèle mathématique. Ça, c'est à peu près le modèle SIR que vous avez vu tout à l'heure, mais il est plus compliqué. Et on le multiplie par 3100, parce qu'il y a 3100 aéroports dans la base internationale de données de l'IATA, l'association des transports aériens. Il y a 3100 aéroports pour lesquels on a tous les déplacements d'aéroport à aéroport. Et donc, on peut faire un énorme modèle qui permet de dire qu'est-ce qui va se passer s'il y a une pandémie qui démarre quelque part. Pas forcément en Asie, d'ailleurs. Pour la pandémie de 1918, on n'est pas du tout sûr qu'elle n'a pas démarré en France ou aux États-Unis. C'est des hypothèses qui existent. Mais qu'est-ce qui va se passer et comment, surtout, on va pouvoir la contrôler? Eh bien, alors, des pages et des pages d'équations, vous inquiétez pas, on les regardera pas. Et notre dernier film d'un travail qu'on a en cours actuellement. Et qu'est-ce que c'est qu'une stratégie non coopérative? Chacun garde ses antiviraux pour soi. Alors nous, on en a pas mal, et au Burkina Faso, il y en a pas. Alors voilà, l'épidémie va démarrer à Hanoï. On est en décembre 06, ça va démarrer à Hanoï en novembre. Et quand il y aura l'épidémie, les codes de couleurs sont pas les mêmes. Le vert devient moins que, voilà, il va passer au jaune. Hein. Là, l'épidémie a atteint l'Asie. Nous sommes ici, les États-Unis là. Voilà, et on est en avril 2007. On est là, vous avez vu, peut-être on est passé par un vert un peu plus clair. On n'est jamais passé par le jaune, forcément, puisque nous avons, dans cette hypothèse, beaucoup d'antiviraux. L'épidémie est démarrée en Asie. On a eu le temps, en 6 mois, de préparer des vaccins. Donc, c'est plutôt une situation favorable. serait pas la même situation s'il n'y avait pas d'antiviraux ou si l'épidémie démarrait en France. Pour finir, nous, en France, tout de même, on sait suivre au jour le jour les épidémies. Je vais finir là-dessus. Ce qui est très important, c'est d'avoir des systèmes d'information en temps réel, pas juste faire de la théorie. Et ça, c'est ce que j'ai pris ce matin. Donc, voilà, ce matin, la situation de la grippe en France, elle est comme ça. Nous, on est à Paris. C'est les autres qui ont des petits problèmes. C'est très bien. Et néanmoins, il y a un tout petit frémissement ici. Vous voyez ça, c'est la courbe temporelle de la grippe depuis 3-4 ans. Et nous sommes, par définition, le dernier jour est à la droite de la courbe. Donc, vous voyez, ça monte un tout petit peu. C'est simplement parce qu'il y a quelques cas sporadiques qui arrivent. Et on peut faire une surveillance temps réel de tout ça. Voilà, et ça, c'est l'épidémie de 2006 telle qu'elle a été vraiment en France. Vous la voyez naître et mourir, et c'est ce qui arrive à mon exposé, qui en est à sa fin également. Peut-être je dis que les quatre points soulevés, mais peut-être vous les avez vus, c'est que l'environnement, c'est l'environnement de l'homme, construit par l'homme, c'est pas l'environnement tout court, c'est l'environnement de quelque chose. C'est que le tabac, ce serait bien d'arrêter de fumer. Que les plus graves conséquences du réchauffement global, c'est les catastrophes climatiques, et qu'on n'a pas grand chose à craindre, à mon avis, sur l'arrivée des maladies infectieuses. Et puis que, vous avez vu, on peut trouver les meilleurs moyens de lutte avec un petit peu de science.
C'était Alain-Jacques Valeron, épidémiologiste et académicien des sciences. Son intervention, à l'occasion de la fête de la science en octobre 2006, portait sur les changements et les évolutions de la santé et de l'environnement au XXe siècle. Il visait notamment à prévenir ses auditeurs des lycéens de Paris. Il visait donc notamment à prévenir ses auditeurs des risques de maladies infectieuses telles que le sida ou tout simplement la grippe et des cancers facilement évitables en limitant certaines conduites à risque telles que le tabagisme, l'alcool ou encore la sédentarité. Cette émission en colloque se termine ici. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.